Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdua pour l'interview, émission que vous pouvez aussi écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui au studio, nous sommes avec Laurence Fischer. Bonjour.
Bonjour Yves.
Laurence Fischer, vous et Céline Toucane avez rédigé un ouvrage intitulé « Le bouillon d'or » qui vient juste de paraître.
Oui, il y a quelques mois.
Il y a quelques mois, donc. Et vous étiez déjà passées toutes les deux en janvier pour nous annoncer cette création de livre qui n'était encore à l'époque pas imprimé ou ni édité. C'est votre premier bébé.
Ah oui, ça, c'est sûr. Premier livre qui finalement a émané d'une passion que j'ai depuis une bonne dizaine d'années à propos du bouillon d'os à l'ancienne.
Le bouillon d'os, le bouillon d'or aussi, comme est indiqué le titre du livre, sous-titré « Réveiller la vitalité de vos intestins », donc un organe primordial pour l'humain.
Ah oui, le premier cerveau. Puisqu'il y a beaucoup plus d'informations qui naviguent de nos intestins vers notre cerveau, notre système nerveux central donc, et le système nerveux entérique, celui des intestins, est très similaire à celui du système nerveux central. Cependant, 90% des informations naviguent de nos intestins vers notre cerveau et seulement 10% de notre cerveau vers nos intestins. Et aussi, quand on est un petit fœtus dans le ventre de notre maman, eh bien, notre cerveau n'est pas encore formé, alors que notre système digestif l'est totalement. Donc, c'est aussi pour ça que je dis que c'est le premier cerveau. Voilà, c'est un livre donc à propos de santé intestinale et de ce plat le plus ancien au monde. À travers toutes les traditions, on retrouve des traces de bouillon d'os. Il y a un lien à faire entre la santé intestinale et ce merveilleux liquide. C'est pour ça qu'on a appelé le livre « Le bouillon d'or », parce que dans ce liquide, en fait, il y a de l'or pour notre santé.
Laurence Fischer, je rappelle aux auditeurs que vous êtes nutrithérapeute holistique. Et donc Céline Toucane, elle est conceptrice de sites internet. Vous avez conjugué vos compétences pour créer d'abord ce site internet aussi, que vous aviez fait connaître il y a déjà 2 ans, vous étiez passé, où vous étiez justement à ce moment-là dans la Drôme à visiter des exploitants ou des fermiers. Ouais. Artisans dans un souci de bien-être et surtout de production bio.
Oui, parce que pour nous, c'est très très important la qualité de l'alimentation. Surtout aujourd'hui, on est à l'apogée, je crois. On ne peut pas faire beaucoup moins bien que ce qu'on fait actuellement au niveau de l'alimentation ultra transformée. Et ça, pour moi, c'est ma mission actuelle en nutrition santé, en santé naturelle. C'est que tout le monde puisse revenir à une alimentation la moins transformée possible, donc la plus naturelle possible, sans intrants chimiques. Et voilà pourquoi, sur jecliquenaturel.com, on a d'abord référencé pas mal d'adresses d'artisans producteurs qui produisent dans le respect de la nature des produits. Et petit à petit, finalement, Céline et moi, on a décidé d'allier nos compétences, qui étaient déjà là depuis une bonne dizaine d'années, sur cette plateforme et en faire une plateforme internet dédiée à la santé et à la nutrition au naturel. Et donc à tous ces produits, bien sûr, non transformés. Et de plus en plus, ce sujet est extrêmement important. Je dirais encore plus aujourd'hui, dans la propagande actuelle qui concerne tout ce qui est végétarisme, végétalisme, qui cache un débat beaucoup plus profond, à mon avis, du débat à avoir sur l'alimentation ultra transformée.
Ces bouillons s'élaborent avec le moins de transformation possible de l'aliment ?
Alors, bien sûr, un bon bouillon d'os à l'ancienne, c'est d'abord des bons os. Et qui dit des bons os, ça veut dire des bons animaux. Pour moi, un bon animal, c'est l'animal bien élevé, celui qui va être dehors, brouter dans un pré la plupart du temps de l'année. Bien sûr, des prés sans pesticides et qui sont des animaux qui mangent, s'ils ne sont pas en pré, ils vont manger un foin naturel, pas des palais de nourriture à base de maïs et soja OGM, par exemple, comme on voit beaucoup dans l'agriculture et l'élevage intensif. Et aussi, ce sont des animaux qui ne sont pas soignés aux hormones, par exemple, soignés ou simplement boostés aux hormones de croissance pour certains animaux, par exemple.
Dans cet ouvrage, vous abordez un petit peu l'origine aussi de ce bouillon au niveau universel.
Oui, tout à fait. Le bouillon d'os, c'est le plat le plus ancien au monde. On en a trouvé des traces depuis l'apparition du feu. En gros, l'homme a commencé à cuire ses aliments. C'est aussi ça qui lui a donné une taille, une évolution du cerveau, du système nerveux central, donc de notre cerveau, et a commencé à devenir beaucoup plus performant grâce à l'énergie sauvegardée par la digestion qui n'avait plus lieu d'être aussi importante quand les aliments sont cuits plutôt que crus. Et à partir de ce moment-là, l'homme a commencé à aussi casser des os avec des pierres, etc., pour agrémenter les soupes. Surtout, il y avait un respect total de l'animal. C'est aussi une grande problématique d'aujourd'hui, c'est qu'on ne tue plus nos animaux nous-mêmes. Donc, on ne voit plus toute la chaîne. Ça fait partie de ce débat aussi, pour moi, l'ultra-transformé. Et donc là, l'animal, déjà, il faut le tuer. C'est pas évident. Parfois, ça prend plusieurs jours et plusieurs, voire près d'une semaine avant d'avoir son animal tué pour tout le village. Et puis après, on va consommer tout, absolument tout de l'animal, jusqu'à la queue de l'animal, les pieds de l'animal, les oreilles, la langue, la tête, absolument tout. Et donc, dans les traditions ancestrales, à travers le monde, à travers le globe, en fait, les éléments riches de l'animal étaient ce que nous, on délaisse aujourd'hui. Donc, nous, on va laisser moins bonne qualité, ou on va être en tout cas beaucoup moins attiré par les abats, par la queue de bœuf, par exemple, par les joues, les pieds, les articulations aussi. C'est plutôt le blanc de poulet qu'on va préférer plutôt que la cuisse de poulet, bien qu'il y en ait qui aiment ça, c'est pas ça. Mais voilà, en tout cas, on allait du début à la fin de la bête. Et quelque part, aujourd'hui, ça refait écho dans toute la mouvance zéro déchet. Le bouillon a un certain succès aussi auprès de cette communauté-là, et ça fait du bien aussi de faire bien attention à aller jusqu'au bout des choses et de recycler jusqu'au bout tout ce qu'on peut. Et là, pour faire un bouillon d'os, par exemple, si on prend le bouillon de poulet, on va peut-être manger notre poulet, et puis au lieu de jeter la carcasse comme on a l'habitude de faire, on va en faire un bouillon. Un exemple, on peut faire ça avec le bœuf, avec les arêtes de poisson, voilà. Le porc, tous les os qu'on peut imaginer. C'est une question de goût, après.
Donc, vous explorez la planète, en quelque sorte, aussi, à la recherche de ces traditions de bouillon. Est-ce que, aussi, dans cette situation-là, vous amassez des textes ou des témoignages de toutes époques? Ça vous arrive, par exemple, d'aller dans des bibliothèques ou des archives pour y trouver des recettes oubliées.
Ça a été effectivement une partie du travail lors de l'écriture du livre, puisque ma passion du bouillon remonte à bien longtemps, juste par goût. Quand mon père faisait le bouillon d'os à la maison, c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié. Puis, j'ai perdu un petit peu cette habitude. Et en revenant sur mon chemin de nutrition, de ma transition alimentaire, et finalement, c'est devenu une passion qui en est devenue mon métier. Et là, j'ai découvert aussi les bienfaits thérapeutiques du bouillon d'os. Et là, j'en parle pas mal dans le bouquin. Mais je parle aussi effectivement un petit peu de l'histoire du bouillon. Et ça a été un vrai plaisir pour moi d'aller un peu fouiller d'autres recettes, d'autres histoires, d'autres traditions. J'explique un petit peu un peu partout. Et ici, pour être local, les ravioles, donc les ravioleuses du Vercors, faisaient toujours cuire leurs ravioles dans un bouillon de poule et non dans de l'eau comme on fait aujourd'hui.
Céline Toucan est animée par cette même passion pour le bouillon d'or. Est-ce qui vous a rapproché ?
Alors non, ça c'est pas tout à fait ce qui nous a rapproché. Donc la main de Céline dans le livre est beaucoup du côté du design du livre, de la structure du livre, parce que moi j'ai beaucoup d'infos à faire passer, mais parfois je structure moins bien. Donc elle a une passion du bouillon dans le sens de la saveur, hein. C'est un plat extrêmement savoureux, hein. Toutes les personnes qui redécouvrent le bouillon aujourd'hui, en général 9 fois sur 10 me disent combien ils sont étonnés du goût du bouillon et restent totalement dans l'habitude du bouillon. Et même si je le prescris, je dirais, au sein de ma clientèle en nutrition, je le prescris vraiment pour des raisons de santé à la base. Et puis finalement, ça reste une habitude aussi de saveur. Hein, c'est extrêmement intéressant. Et d'ailleurs, tous les grands chefs français pratiquent, je dirais, les fonds. Hein, on appelle ça les fonds. Donc les bouillons un peu réduits pour faire des sauces et des choses comme ça. On dit les fonds parce que ce sont les fondements, hein, les fondations de la cuisine. Voilà, donc en France, on est encore très proche des bouillons.
Je reviens sur le sous-titre « Réveiller la vitalité ». Est-ce que, d'après vous, aujourd'hui, l'intestin est endormi ?
Il n'est pas non seulement endormi, il est pas en très bonne santé. Je dirais que dans nos sociétés occidentales, occidentalisées, qui ont perdu les traditions, donc à l'opposé donc des sociétés ancestrales et traditionnelles, nous avons perdu, je crois, le contact avec la nature, et c'est ça qui nous donne un certain mal-être général. Et au niveau purement santé intestinale, là clairement cette alimentation ultra transformée qui fait partie maintenant de notre quotidien, alors pas à tous, hein, ici dans cette région sans doute beaucoup moins qu'ailleurs, mais en tout cas dans les grandes villes, c'est la majorité de la consommation actuelle est une alimentation ultra transformée. Et bien sûr, cette alimentation-là a un impact énorme sur notre santé intestinale. Et donc, on est non seulement endormi dans le sens simplement que notre intestin ne fonctionne plus optimalement et que sa fonction digestive est ralentie ou voire détériorée. Ce qui amène évidemment énormément de petits problèmes et de beaucoup plus gros problèmes. Donc là, je parle aussi dans le livre de tout l'aspect santé intestinale qu'on peut un peu développer, si tu veux.
Voilà, j'appelle ça, moi, de l'aliment prédigéré. C'est un peu excessif, mais pas loin, quoi.
Tu veux dire pour l'alimentation ultra transformée ?
Oui.
Ah ben moi, j'appelle pas ça du tout prédigéré. Au contraire, il n'y a aucune prédigestion dans cette alimentation-là. Pour moi, par exemple, un aliment prédigéré serait un aliment ancestral comme la lactofermentation. Tous les légumes lactofermentés sont réellement une prédigestion, puisqu'il y a une démultiplication des enzymes, des bactéries, et il y a des présences de probiotiques beaucoup plus importantes, etc. Ce qui permet une sorte de prédigestion et d'activer chez nous nos enzymes digestives encore plus et d'alimenter nos souches probiotiques dans l'intestin, dans le microbiote, on dit maintenant. Et c'est ça qui va aider à la digestion. tout ce qui est ultra transformé est complètement mort et en plus chargé en additifs et en produits chimiques qui empêchent parfois même de digérer ou qui amènent des toxines dans le corps. Désolée de te contredire, mais pour moi, c'est tout le contraire.
C'est pas grave, ça me remet en place. Alors, oui, bah, le bouillon est composé essentiellement d'os, mais quels sont les apports autres que vous amenez aussi dans ces recettes?
Alors, un bouillon d'os à l'ancienne, c'est tout simplement une grande casserole remplie d'eau, remplie de bons os, comme on les a définis tout à l'heure. On y rajoute aussi des légumes. Alors évidemment, pour moi, ce serait des légumes bio. Et on y rajoute une touche très importante qui est la petite touche d'acidité qui va se faire via un jus de citron, via un vinaigre de cidre de pomme ou via du vin blanc. Donc selon les recettes et selon les saveurs qu'on a envie de donner au bouillon, on va choisir l'un des trois. Par contre, les trois font le même effet. Pourquoi cette touche d'acidité? C'est extrêmement important pour pouvoir décomposer davantage tous les os, les tissus conjonctifs, les tendons, la peau qui est contenue dans les os et les ingrédients qui contiennent les os aussi, c'est-à-dire par exemple la moelle osseuse, par exemple. Bon, pour extraire ça au mieux et que ça, on va dire, se dissolve dans le jus, on va appeler ça le jus, c'est dans l'eau, mais ça devient une espèce de jus, eh bien la touche d'acidité va permettre ça beaucoup mieux. Et souvent, c'est ça qu'on oublie dans un bouillon. Et donc, le bouillon sera vraiment thérapeutique s'il a cette touche d'acidité et si la qualité des os est au rendez-vous, ainsi que celle des légumes.
D'ailleurs, la cuisson s'opère très longuement.
Oui, c'est un mijotage. Donc, malgré son nom, le bouillon ne doit absolument pas bouillir. S'il bouillait, il perdrait aussi en qualité thérapeutique, hein, donc on casserait les molécules de gélatine qui sont, elles, très précieuses pour notre muqueuse intestinale.
Donc, il y a un apport thérapeutique avec ce bouillon. Quels sont justement ces apports?
Alors, le bouillon d'os à l'ancienne, celui aussi fait avec des légumes. Pour les légumes vont amener beaucoup de minéraux, vont amener aussi beaucoup de saveurs. Les légumes, c'est aussi grâce à leurs sels minéraux, ils vont en fait saler le bouillon. Hein. Vraiment, il y a une saveur salée sans mettre de sel. On peut rajouter du sel, mais pour moi, c'est pas nécessaire. Et bien que dans les recettes, je parle parfois d'une pincée de sel, hein. Chacun ses goûts. Mais donc, on va avoir un apport en minéraux extrêmement intéressant juste dans ce jus, hein, puisqu'on va, à l'issue d'un mijotage de 4, 5, 6, 8 heures, parfois 14 heures, on va bien sûr jeter tout. L'os a donné ce qu'il a donné, donc là, pour le coup, il va être jeté. Et les légumes, eux aussi, se sont vidés de leurs minéraux dans ce liquide et donc sont des fibres mortes qui n'ont aucun intérêt à la consommation. Et il y a des gens qui veulent quand même les manger. Et je vous conseille vraiment de ne pas le faire parce que ça va plutôt créer des fermentations dans vos intestins par cette fibre totalement morte qui va stagner et molle en plus. Donc je vous conseille vraiment de mettre ça dans un compost spécial pour choses cuites. Mais voilà, donc les minéraux sont là, les os, ben, ils vont aussi donner un peu de minéraux, mais pas tant que ça, c'est plus les légumes qui vont en donner. Par contre, les os, il va y avoir vraiment une espèce de chimie qui va s'opérer dans ce mijotage avec cette température qui va tourner à moins de 100 degrés. Hein. Le mijotage, c'est ça, c'est quand il y a les toutes petites bulles, pas les grosses bulles. Donc on va mettre à feu très très doux, très longtemps. Eh bien là, les os vont se dégrader, les tissus conjonctifs vont se dégrader, tout va se dégrader en une sorte de gélatine. Hein. Vous connaissez tous la gélatine. Quand vous achetez une terrine, souvent il reste quelque chose un peu transparent, brun. Ça, c'est ce qu'on appelle la gélatine. C'est un peu solide. C'est un élément aussi totalement hydrophile, donc il se solidifie quand il refroidit, mais à la chaleur, il est bien sûr totalement liquide. Il va refondre complètement. Ce n'est donc pas du gras, c'est de la gélatine. Et c'est là que les éléments précieux pour notre muqueuse intestinale se trouvent, grâce à, notamment à une molécule qui s'appelle la glycine, et qui, elle, va aider énormément la réparation de notre paroi intestinale quand elle est enflammée, irritée, va aider aussi le foie à détoxifier, etc.
Vous disiez à l'instant donc de ne pas consommer forcément les légumes qui étaient dans le bouillon. Comment se produit la cuisson ? Est-ce qu'il faut éviter de toucher tous ces ingrédients de manière à ne pas les abîmer et qu'ils se dégradent encore plus rapidement ?
Ah, c'est une chouette question et justement, au cours de mes 10 bonnes années d'expérience de fabrication de bouillons divers et variés, eh ben, j'ai remarqué qu'en fait, si on y touche, comme tu dis, qu'on va par exemple mélanger de temps à autre, eh bien, j'ai encore plus de gélatine. Donc, non, c'est bien de mélanger, c'est pas grave. Vous allez voir, quand vous allez faire vos premiers bouillons, après 4, 8 heures, moi je conseille quand même 8 heures, tout est vraiment décomposé, dégradé, c'est assez incroyable. Par exemple, une queue de bœuf, si vous faites un bouillon de queue de bœuf, il y a beaucoup de viande dans la queue de bœuf, mais elle est immangeable si on ne la fait pas mijoter ou si on ne la fait pas en bouillon. Une fois qu'elle est faite en bouillon, en fait, toutes les parties un petit peu nerveuses, gélatineuses que vous aviez vues en mettant la viande dans la casserole se décomposent et libèrent la viande littéralement. Donc, elle n'est plus emprisonnée dans ces masses nerveuses. Et on peut manger cette viande qui devient absolument tendre et délicieuse alors qu'elle serait immangeable autrement. Donc c'est vraiment là qu'on comprend comment fonctionne la cuisson mijotée, et spécifiquement le bouillon qui est dans quelque chose de très aqueux et très long qui va permettre ça.
La vie d'un bouillon est de combien de temps ? Est-ce qu'on peut toujours prolonger une cuisson de bouillon indéfiniment en y apportant un peu d'aliments à l'intérieur ?
Chouette question aussi, parce que beaucoup de gens posent cette question, donc voilà, ça va en aider d'autres. Alors, il ne faut pas confondre le bouillon d'os à l'ancienne et le bouillon de culture. Si on fait ça, il y en a aussi qui arrêtent, qui remettent, et puis ils n'enlèvent pas les ingrédients au bout d'un moment, ils rajoutent, etc. Là, on risque quand même une prolifération bactérienne qui n'est pas du tout souhaitable. Et c'est beaucoup mieux de faire son bouillon, même si c'est 8 heures de mijotage, voire parfois plus ou un peu moins si on veut. Question de saveur aussi, hein, mais aussi une question de bien décomposer. Par exemple, pour un bouillon de bœuf, on a besoin de beaucoup plus longtemps de mijotage qu'un bouillon de poulet, un bouillon de poisson, il n'y a pas besoin de beaucoup. Hein. Mais donc moi, je conseille vraiment, pour des raisons d'hygiène et de santé aussi, de vraiment faire son bouillon. Une fois qu'il est prêt, on enlève tout. Et puis, on va conserver le bouillon dans des pots en verre, par exemple, que l'on peut congeler. Bien sûr, il faut laisser de l'air pour pas que ça éclate dans ce cas-là. Et puis, ce bouillon va devenir une base. Là, par exemple, tu peux prendre ton bouillon et puis en faire une nouvelle soupe. Hein, à la place de l'eau, tu vas utiliser un bouillon pour la saveur. Et puis, tu vas faire une soupe de légumes avec ton bouillon. Ou un truc un peu... Tu vois, les bols ramen à la japonaise, où tu vas rajouter plein de choses dedans, fraîches, mais dans ta base bouillon. Voilà.
Je pensais à ces fétous que l'on pouvait trouver sur les poêles à bois dans les cuisines.
Exactement.
Et qui étaient toujours maintenus au chaud.
Oui.
Donc là, même là aussi, il y a un risque de développement de culture.
Alors, du moment que c'est en température constante, tout le temps maintenu au chaud, normalement, non. Mais comme il y a plus souvent ces poêles à bois qui font aussi
le chauffage
et puis qui peuvent aussi servir de fourneau, etc. Voilà, j'ai tendance à pas trop parler de ça. Mais c'est vrai que si on a ça, là effectivement, on peut laisser très longtemps. Il faut juste pas que ça redevienne froid en fait ou tiède.
Par rapport à la santé, donc, quels sont les apports du bouillon sur les diverses parties du corps ?
Alors, il y en a beaucoup. Alors, je vais en dire quelques-uns. On a déjà pas mal parlé de la muqueuse intestinale. Donc, l'apport sur la muqueuse intestinale est très important. L'aide à se réparer en nourrissant les cellules intestinales, c'est-à-dire les entérocytes qui ont besoin de cette glycine pour se réparer. Bien sûr, tout ce que vous pouvez imaginer de ce que vous mettez dans votre casserole, donc les os de poulet, hein, l'os de poulet qui va avec ses tendons, l'articulation du poulet, la peau du poulet, ben ça vient aussi nourrir la même chose chez nous. Donc le bouillon d'os à l'ancienne est très bon pour notre peau, pour nos articulations, pour notre qualité tissulaire, les cheveux, les ongles, tout ça va aider énormément à garder une certaine souplesse. Il y a beaucoup, beaucoup de collagène. Donc souvent, les femmes aiment beaucoup les crèmes de jour avec beaucoup de collagène qui coûtent souvent bien cher alors que dans le bouillon, il y a tout ce qu'il faut. Quand on a de l'arthrose, on achète des compléments alimentaires à base de chondroïtine, par exemple. Il y en a beaucoup dans le bouillon. Pour les intestins, parfois, on va prendre des acides aminés qui s'appellent la glutamine. Il y a énormément de glutamine dans le bouillon. Voilà pourquoi le bouillon a beaucoup, beaucoup de bienfaits santé et surtout au niveau de la muqueuse intestinale.
L'ingrédient principal étant l'os, où peut-on le trouver de nos jours ? Est-ce que c'est encore assez facile de le trouver ?
Alors oui, dans les pays comme la France, moi je suis belge, en Belgique on est aussi assez proche du bouillon encore, des plats mijotés, etc. Donc justement, allez parler à vos petits producteurs. Ici, il y en a plein, donc il suffit de leur en parler. Moi je suis là depuis maintenant 2 mois, enfin, installée ici dans la Drôme, le Diois. Et j'ai déjà rencontré des petits producteurs qui connaissent le bouillon. Eux, ils connaissent. Hein. Donc, j'ai rencontré une productrice de veau, un producteur de poulet et de pintade. Et eux-mêmes ont des clients aussi qui leur achètent des carcasses, des os pour faire des bouillons, parce qu'ils connaissent les avantages santé, malheureusement aussi en cas de maladie grave comme le cancer. Hein. Ça aide beaucoup à l'immunité aussi, le bouillon, à la densité osseuse, j'ai oublié de dire. Donc en parlant autour de vous, normalement vous devriez récupérer quasi gratuitement, voire gratuitement, ces os qui vont normalement être jetés, tout simplement rebroyés et jetés. Donc il y a moyen.
Il y a divers animaux hein, dans notre consommation, le bœuf, la brebis, l'agneau, le porc. Est-ce que tous sont compatibles avec un bouillon ?
Oui, franchement, tout. Il y a, je dirais juste peut-être des poissons très gras, comme on ferait pas un bouillon de saumon. Bon, de toute façon, le saumon, malheureusement, il n'y en a plus du sauvage. Hein, donc déjà, c'est plus vraiment d'actualité. Mais c'est pour donner un exemple, ce serait un bouillon qui aurait vraiment un drôle de goût. Donc au niveau des saveurs, ça ne serait pas l'idéal. Après voilà, chacun ses goûts. Il y a des saveurs qu'on ne va pas aimer du tout. Hein. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout le bouillon de bœuf. Moi je le trouve délicieux. Il y en a qui n'aiment pas du tout le bouillon de porc. Mais en gros, à travers le globe et à travers ces traditions ancestrales, on a trouvé des bouillons de tout. Hein, on peut faire bouillon de lapin, bouillon de canard, des bouillons de tout. On peut mélanger les os aussi. Aussi une question de saveur. Tout ce qui est gibier va être beaucoup plus fort, mais on le sait déjà quand on mange le muscle du gibier, hein, donc la viande. Chez nous, c'est souvent le muscle de l'animal. C'est ce que dans certaines traditions, on donnerait plutôt aux chiens. Hein. Donc nous, on a décidé que c'était la partie riche de l'animal, alors que finalement, la partie riche de l'animal, pour beaucoup de traditions ancestrales, c'est tout le reste. Et donc voilà, tout c'est une question de goût.
Par quel cheminement on peut peut-être rappeler aussi qu'est-ce qui vous a permis d'acquérir les capacités de rédiger cet ouvrage et de pouvoir même articuler les compétences avec Céline pour son domaine?
Moi, ça fait à peu près une vingtaine d'années que j'ai commencé ma transition alimentaire personnelle, c'est-à-dire de passer de cette alimentation issue de l'industrie agroalimentaire, qui est aujourd'hui vraiment ultra, ultra transformée, à une alimentation que j'ai nommée naturelle. Et notre définition de naturelle sur jecliquenaturel.com, c'est une alimentation brute ou très peu transformée, la plus proche de son état naturel, et surtout sans intrants chimiques. Donc même en bio, il y a des intrants chimiques qui ne sont pas forcément très bons ou recommandés pour la santé. Donc j'insiste sur cette définition qui est très simple, mais qui est tellement importante. Et à l'heure d'aujourd'hui où on passe des messages très complexes à propos de la nutrition, en fait, la nutrition santé, c'est très très simple. C'est des aliments bruts ou très peu transformés sans intrants chimiques. Voilà, c'est devenu une passion après avoir retrouvé une santé vraiment bien bien meilleure, une forme physique et une vitalité surtout bien meilleure. J'en ai fait une. Enfin, c'est devenu une passion, j'ai dévoré ce sujet et c'est en effet aussi devenu mon métier. Donc il y a à peu près 12 ans, j'ai commencé à faire de la nutrition mon métier. Et puis, bien sûr, j'ai prescrit le bouillon à des milliers de personnes pour des raisons intestinales, santé, etc. Et à un moment, j'ai eu la chance d'être interpellée par une maison d'édition qui s'appelle La Renaissance du Livre, qui est une petite maison d'édition en Belgique, mais on est vendu aussi en France, dans tous les pays francophones, en fait, qui nous a dit... j'aime beaucoup votre manière de parler simplement de la nutrition. On comprend ce que vous dites, c'est pas culpabilisant. Il s'agit surtout de l'écoute du corps et j'aimerais bien que vous écriviez un livre là-dessus. Et là, je lui ai dit, écoute, ce sera le deuxième livre peut-être, mais là, j'aimerais bien qu'on parle d'un sujet qui mérite vraiment d'être beaucoup plus répandu. C'est ce fameux bouillon d'os et le lien qu'il a avec la santé intestinale. Comme l'éditrice était aussi française, elle avait un lien assez proche avec ce bouillon et tous les plats mijotés qu'on peut trouver en France traditionnellement. Et elle a trouvé ça un chouette défi à relever. Et c'est ainsi que le bouillon d'or est né. Et Céline Toucan, étant bien sûr ma collègue sur Je clique naturel, elle a eu bien sûr son rôle dans le livre, parce que sans elle, d'abord le titre n'existerait pas, puisque c'est Céline qui a trouvé ce titre que je trouve superbe. Et le design du livre, la structure encore une fois, voilà, c'est vraiment un travail à quatre mains, j'ai envie même de dire huit, parce que les deux personnes qui nous ont accompagnés dans cette aventure, c'est vraiment une aventure, l'écriture même d'un livre simple comme celui-là, Joël et Valérie nous ont soutenus énormément, et c'était une belle aventure humaine aussi de faire ce livre.
On peut parler aussi de ce site, hein, d'ailleurs, Je clique naturel, qui existe depuis 2 ans, hein, au moins.
Oui, presque 3 maintenant.
Même 3, et qui est constitué donc de comptes rendus, de promenades sous forme de vidéos ou de documents sonores aussi.
Oui, effectivement, c'est un site internet dédié à la santé et à la nutrition naturelle, plus particulièrement à viser d'aider les gens à sortir de la fatigue, hein, puisque l'un des grands problèmes actuels, c'est le manque de vitalité des gens. Alors, il y a des problèmes de santé, des problèmes de stress, il y a des problèmes d'hygiène de vie globale. Hein, donc, on agit bien sûr sur un des piliers très importants de la santé globale, qui est l'alimentation. Mais le message, c'est surtout l'équilibre d'une hygiène de vie globale saine et naturelle, donc dont fait partie l'alimentation, mais pas que. Un bon sommeil, bien bouger son corps, s'oxygéner, bien s'hydrater et avoir surtout des ressources pour gérer notre stress, puisque le stress est l'ennemi numéro un actuel de l'être humain au niveau de sa santé et de son bien-être.
qui agit directement sur l'intestin aussi.
Directement, vu que l'intestin est composé d'un système nerveux à lui, qui s'appelle le système nerveux entérique. Et tout système nerveux est sensible au stress. C'est ça qu'on appelle le système nerveux parasympathique, qui est quand on est au calme, et le système nerveux orthosympathique, ou sympathique, on dit aussi, quand on est en situation de stress. Alors, ancestralement, le stress, c'était une situation de danger de mort. Aujourd'hui, le stress, ça peut être juste « je vais rater mon train ». Donc on est, mais le corps va réagir comme face à un mammouth ou un ours. Donc le stress physiologique qui s'encourt dans notre corps, face à une situation aussi anodine presque que de louper son train, peut amener à répétition beaucoup, beaucoup, beaucoup de stress dans le corps. Et il y a certaines personnes qui n'arrivent plus à être en parasympathique. Le problème aujourd'hui, c'est ne plus arriver à se détendre et bloquer le corps en orthosympathique.
On peut peut-être développer l'orthosympathique.
Donc c'est le système nerveux qui a, on va, moi il y a trois positions, mais on va dire qu'il a deux positions. J'aime bien faire un geste avec mon bras, donc on voit pas ici, mais quand on est en parasympathique, le système nerveux est au repos, on est tranquille, il y a pas de danger, on respire bien, on transpire pas, enfin on est calme. En fait, et quand le système nerveux est en situation de stress, il se met en orthosympathique, donc tout le corps est fait pour ça, il n'y a aucun problème. On est une machine exceptionnelle de précision, de finesse, de subtilité, et on est hyper adaptable, c'est juste fantastique le corps. Donc on est fait pour ça. Quand on a une situation de stress, qu'on se met en orthosympathique, le corps est sollicité pour, par exemple, avoir un apport sanguin beaucoup plus important dans tous les membres pour qu'on puisse, par exemple, courir, puisque c'est important pour avoir son train ou face à un danger, c'est important de pouvoir s'enfuir en courant. Donc tout est fait pour cela. Après un stress, ce qui est important, c'est de pouvoir redescendre en parasympathique. L'orthosympathique ne doit être une situation que temporaire. Et actuellement, dans nos sociétés occidentalisées et urbaines, le stress est tellement important tout le temps que finalement le corps n'arrive plus à revenir au système nerveux parasympathique. Et cela entraîne du coup toute une suradaptabilité dans le corps au niveau hormonal. Une fois que le système nerveux est tellement sollicité dans son stress, eh bien on va avoir un impact de plus en plus hormonal. Et donc le système hormonal va être en adaptation, donc principalement les surrénales, c'est des glandes qui sont juste au-dessus des reins, donc on les appelle les surrénales, qui donnent par exemple l'hormone du cortisol et de l'adrénaline et de la noradrénaline et plein d'autres. Mais voilà, celle que vous connaissez beaucoup, l'adrénaline pour le stress, est très importante. C'est une très très bonne hormone pour permettre justement d'être vif et de courir par exemple. Mais si cette adrénaline reste en continu, parce qu'on est continuellement en situation de stress, alors elle a un système de secours qui s'appelle le système de cortisol. Donc là, l'hormone de cortisol va prendre le relais quand l'adrénaline s'épuise, puisque tout système est épuisable. Il n'y a aucun système par définition qui est inépuisable. Donc quand l'adrénaline va s'épuiser à force de stress, on arrive dans la roue de secours, le système du cortisol, qui lui est vraiment le système de stress-stress. Et donc on continue à être en orthosympathique tout le temps, à produire du cortisol. Le cortisol, c'est la cortisone naturelle. Donc quand on prend de la cortisone, vous connaissez les effets de la cortisone, on gonfle, on grossit, des choses comme ça. Notre propre cortisol peut faire la même chose.
Oui, sur ce site, vous avez aussi les possibilités d'échanger avec les internautes.
Effectivement, donc sur le site, on a un tas d'informations dans lesquelles on peut se balader, comme tu as dit, sous forme d'articles, de blogs ou de vidéos. Ça sera plutôt sur notre chaîne YouTube, mais elles sont aussi accessibles sur notre site internet. Et bien sûr, on a aussi la possibilité de s'abonner à Je Clique Naturel pour 9 € par mois. On peut avoir accès à des webinaires ou des téléconférences en ligne 2 fois par mois. Céline et moi, on est face à notre caméra et vous êtes derrière votre écran et on va donner un sujet d'actualité ou pointu ou simplement que notre communauté nous a demandé de, comme celui de ce soir. D'ailleurs, ce soir, on fait un webinaire sur l'angoisse à l'approche des fêtes au niveau des kilos, mais aussi de cette un peu obligation de manger et de boire. C'est pas toujours évident. Et donc, on parle de ça ce soir en direct à 20h. Et voilà, quand on est membre de Je clique naturel, on a accès à ça deux fois par mois. On peut me poser du coup toutes les questions qui vous viennent par la tête sur le sujet ou hors sujet, c'est pas important. Et on a accès à toutes les rediffusions des sujets passés. Donc ça aussi donne accès à tout ce qui a été déjà fait. Et puis aussi, moi je fais des accompagnements en nutrition holistique par la voie de l'internet, donc en ligne. Il y a aussi moyen d'avoir rendez-vous avec moi. Et on a aussi un programme en ligne qui aide les gens justement à faire cette transition alimentaire, de passer de l'alimentation, on va dire, conventionnelle, de l'agroalimentaire, de l'industrie agroalimentaire, à une alimentation saine et naturelle.
Cet ouvrage s'adresse à qui aussi ?
Franchement, à un public très large, hein, puisque il y a de tout. C'est un livre sur la santé intestinale, c'est un livre sur l'histoire du bouillon d'os à l'ancienne. Souvent, on a comme retour que c'est extrêmement intéressant parce qu'on ne connaît pas cette histoire-là. Donc, y en a un peu pour tout. C'est aussi pour les gens qui aiment cuisiner, qui ont envie de trouver de nouvelles recettes, puisqu'il y a tout un tas de recettes que je partage, dont des recettes très originales, comme on peut faire comment on dit ça en français, le golden latte, donc le lait d'or au curcuma. Ben moi, je le propose à base de bouillon, par exemple. Et il y a plein de choses un peu, même un tout petit peu sucré qu'on peut faire à partir du bouillon, parce que le bouillon, finalement, une fois mélangé à d'autres choses, il n'est pas dominant au niveau de la saveur. Donc voilà, c'est pour les curieux de la cuisine, c'est aussi un chouette livre. C'est un livre qui ouvre aussi sur plein de choses, puisque pour moi, je ne sais pas si on l'a compris jusqu'à maintenant, mais l'alimentation, c'est pour moi une porte vers la spiritualité. Hein, donc il y a moyen de faire un chemin de réflexion aussi avec ce livre. Donc il y en a un peu pour tous les goûts. Et si vous voulez aller plus loin, il y a toujours la suite sur Je clique naturel.
Cet ouvrage, donc, édité à la maison Renaissance du Livre en Belgique, est disponible comment ?
Partout en France, dans les grandes librairies et les beaucoup plus petites, comme ici à Die, à la Mosaïque, il est là, en vente là, depuis quelques semaines déjà. Donc, il est aussi, en direct auteur. Donc, nous, où on se trouve, quand on est à Bruxelles, il y a plein de gens qui viennent prendre leur livre chez nous parce qu'ils veulent une dédicace. Donc, alors, on fait ça en direct. Et puis ici, quand on est dans le DIY, ça se passe aussi. Donc, on est ravis aussi de rencontrer les gens. Pour nous, c'est un contact humain aussi de pouvoir faire la dédicace et de le vendre en direct. Et comme tout circuit court, c'est toujours préférable. Donc, voilà. Mais il est en vente partout. Il est même en vente sur Internet. Mais ça, c'est le choix qu'on pousse le moins pour les raisons qu'on connaît tous.
Laurence Fischer, je vous remercie d'être venue nous parler donc de l'ouvrage Le Bouillon d'Or, et qui est édité à Renaissance du Livre. Et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci à toi, Yves.
Au revoir.
Interview.
Okay, the bird.